Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les communes bientôt obligées de financer les maternelles des écoles privées sous contrat, c'est une des conséquences de l'instruction obligatoire des 3 ans. Le projet de loi est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et nous y reviendrons dans un instant.
Et puis nous nous intéresserons aussi aux faux médicaments. Les contrefaçons existent même en Europe. L'Union européenne légifère donc pour une meilleure traçabilité et nous vous expliquerons en quoi cela consiste.
Nous serons aussi en ligne avec notre correspondante en Italie. Ce week-end, le mouvement anti-système des 5 étoiles n'a pas convaincu lors des élections régionales. Preuve peut-être d'un début de désaveu.
Et puis nous irons près de la ligne de front en Syrie, là où la coalition arabo-kurde a lancé ce week-end sa dernière offensive contre Daesh.
Après ce journal, dans le billet politique, Frédéric Saïs se demandera pourquoi l'affaire du contrat russe fait changer de dimension l'affaire Benalla. Voilà un titre résolument optimiste. Pour une école de la confiance. Le projet de loi porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est examiné à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il contient 25 articles sur des sujets très divers. Cela va du rôle renforcé des surveillants à la création d'une nouvelle agence pour la formation des enseignants. Parmi les mesures médiatiques, il faut noter l'obligation d'instruction pour les enfants à partir de 3 ans et non plus 6 ans. Cela concerne 3% des enfants actuellement, principalement dans les départements d'outre-mer. Mais qui dit obligation dit surtout financement obligatoire. Les communes devront ainsi aider les écoles maternelles privées sous contrat, autant que les écoles publiques. Et ce qui n'est pas du goût des élus et des syndicats d'enseignants, car l'enveloppe demandée serait non négligeable à Kim Kasmi.
Si la mesure est définitivement adoptée, elle représenterait une aide de 150 millions d'euros à la charge intégrale des collectivités qui subissent déjà de plein fouet la baisse des dotations de l'État ces dernières années. Du coup, le soutien aux écoles privées se ferait au détriment du personnel des communes, du financement des activités ou des associations. Damien Berthillier, adjoint éducation à la mairie de Villeurbanne, est président du réseau français des villes éducatrices.
Quand vous avez 2, 3, 4 millions d'euros à trouver dans votre budget pour financer des écoles privées, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez dans les budgets de la ville, et le premier budget de la ville, c'est le budget de l'éducation. Ça veut dire que potentiellement demain, on sera obligé de supprimer des postes d'ATSEM, baisser des crédits fournitures aux écoles publiques pour financer un forfait des écoles privées. On ne mesure pas les conséquences encore aujourd'hui, on les mesurera sans doute précisément dans 2, 3, 4 ans, mais c'est un basculement historique qui a été fait. Je ne pense pas que c'était l'intention initiale du gouvernement, mais le résultat, il est là aujourd'hui.
Du côté des syndicats d'enseignants, cette aide est vue comme de la concurrence déloyale entre les écoles privées et publiques. Stéphane Crochet, secrétaire général de l'UNSA Éducation.
On va venir ajouter des financements à l'école maternelle privée qui va pouvoir encore élargir, consolider son offre de scolarisation dès 2 ans, pendant que nous, à l'école publique, on ne le pourra pas parce que l'éducation nationale ne nous autorisera pas à ouvrir ses classes de 2 ans et on sait bien à quel point il est important de ne pas rater la première scolarisation.
Aujourd'hui, les établissements privés représentent 20% des effectifs, un seuil qu'elles ne peuvent pas dépasser pour l'instant, conformément à la loi. Mais les syndicats craignent qu'avec ces aides, on ouvre la boîte de Pandore.
Kim Kasmi, notre spécialiste éducation, notons qu'aujourd'hui aussi sont attendues de nouvelles mesures pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Là, il ne s'agit pas encore d'un projet de loi, mais de la restitution d'une concertation intitulée « Ensemble pour l'école inclusive ». Les propositions seront faites en fin de matinée et sera invitée sur France Culture dans le journal de midi et demi, Isabelle Brion, déléguée ministérielle à l'inclusion scolaire. Au chapitre du programme gouvernemental pour ce lundi encore, Édouard Philippe, le Premier ministre, est attendu ce matin en Indre-et-Loire, à Avoine, près de Chinon. Il va visiter une maison de santé qui regroupe des médecins et des soignants libéraux. Il y évoquera la lutte contre les déserts médicaux en France. À 3 jours de la présentation du projet de loi santé, la Fédération hospitalière ainsi que des élus dénoncent une concertation insuffisante. Et puisque l'on parle santé, penchons-nous sur une directive européenne. Elle impose, depuis 2 jours tout juste, à tous les pays membres de l'Union d'apposer un code unique sur chaque boîte de médicaments. Il s'agit de lutter contre les faux médicaments qui ne circulent pas seulement en Afrique ou en Asie, même si ce sont ces continents-là, sur ces continents-là que le trafic est le plus important. En Europe, et notamment en Allemagne par exemple, on a récemment retrouvé des versions trafiquées de médicaments contre le cancer du sein. Une nouvelle traçabilité commune à l'Union européenne se met donc en place et elle a exigé quelques investissements chez les industriels, les distributeurs et les pharmaciens. Tara Schlegel.
Depuis des années, les fabricants de médicaments tentent de rendre leurs produits infalsifiables, rappelle Geoffroy Bessot. Il travaille chez Sanofi dans la lutte contre la contrefaçon.
Vous avez une boîte, il faut imaginer que c'est une boîte fermée par, on a ce qu'on appelle des pattes, et ces pattes sont collées avec différents types de colle, ou bien par des stickers particuliers qui font que si vous les ouvrez, là, on verra qu'il y a eu effraction. Vous avez un deuxième niveau, c'est par exemple des systèmes d'hologrammes, d'encre réactive, d'encre particulière, qui nous permettent de reconnaître que le produit est authentique. Et troisième niveau, c'est celui qui est demandé par les autorités de santé, qui est celui de la sérialisation, qui consiste à identifier chaque boîte avec un numéro unique.
La mise aux normes de chaque ligne de production coûte entre 100 et 400 000 euros aux fabricants, mais la sécurité est maximale.
À une boîte de médicaments donnée est associé un numéro unique qui est envoyé dans un cloud. Le pharmacien à l'officine, il utilise un petit instrument qu'on appelle une douchette et qui va vérifier que ce numéro existe. Si le numéro existe, parfait, c'est un médicament authentique. Alors, la France était déjà extrêmement avancée dans le domaine, mais l'idée c'est de mettre tous les pays d'Europe ainsi que d'autres pays de par le monde au même niveau de protection des patients.
L'Afrique, l'Asie sont extrêmement touchés par le trafic de faux médicaments dont le chiffre d'affaires a triplé en 8 ans pour atteindre probablement 200 milliards d'euros avec sans doute un manque à gagner pour les laboratoires mais surtout un coût humain catastrophique.
Une enquête est ouverte, voilà ce que précise le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après la blessure d'un manifestant samedi à Paris lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Cet homme a eu une main arrachée, il a été opéré hier. Samedi également, trois photographes qui couvraient la manifestation des Gilets jaunes à Toulouse affirment eux avoir été délibérément visés par les forces de l'ordre. L'un d'eux ayant été blessé notamment à la cuisse par une grenade, dit-il. Ce lundi est aussi un jour de mobilisation, cette fois des patrons et des moniteurs d'auto-écoles. À Marseille, Bordeaux, Nice ou encore Paris, ils vont manifester, ils manifestent d'ailleurs déjà contre un rapport parlementaire. Rédigé par la députée de la majorité Françoise Dumas, il préconise la généralisation du passage du permis de conduire en candidat libre, la baisse du prix du permis sur Internet et la modification de l'agrément pour la profession. Philippe Colombani, président de l'Union nationale des indépendants de la conduite, y voilà une ubérisation de la profession.
C'est un choix de société pour moi. Ça va plus loin que la défense des auto-écoles. C'est, est-ce que le monde moderne, c'est la précarisation des travailleurs ? Parce que c'est vers ça qu'on va. Puisqu'on nous annonce des baisses de prix avec des moniteurs dits indépendants et pour lesquels nous avons des lettres de l'URSSAF, très claires, de plusieurs URSSAF de France, qui disent les auto-écoles n'ont pas le droit d'utiliser des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs. C'est interdit. Et si vous le faites, vous serez sanctionnés et peuvent être qualifiés en salariés. Est-ce qu'on veut accepter une précarisation de la profession ? C'est ça, et de la société. Parce que au-delà de la profession, c'est toute la société qui va y passer. Si le monde moderne, c'est la destruction des acquis sociaux et du salariat, moi j'appelle ça à revenir au 19e siècle.
Les auto-écoles vont donc marquer leur mécontentement ce matin. Des ralentissements ont déjà lieu sur plusieurs autoroutes et autour de Paris. Un groupe d'utilisateurs de Twitter est accusé d'avoir harcelé des internautes, généralement des femmes. Ces cyber-harceleurs sont des journalistes, des professionnels de la communication et de la publicité réunis sur un groupe intitulé la Ligue du LOL. Insultes, moqueries, en 2009, il s'en prenait à des femmes mais aussi des jeunes journalistes débutants et la parole s'est libérée sur les réseaux sociaux ce week-end. Les harceleurs mis en cause ont également réagi, certains s'excusant de ne pas s'être rendu compte de la portée de leurs mots, d'autres expliquant que ces pratiques correspondaient, je cite, à une époque. En bref, encore ce contrat colossal signé, ça y est, entre la France et l'Australie. Un contrat de 12 sous-marins à 50 milliards de dollars. L'Australie les achète et veut ainsi montrer ses ambitions militaires. C'est Naval Group, anciennement DCNS, qui est chargé de la livraison et cela va créer 500 emplois en France.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal avec l'une de ses premières émissions que l'on va consacrer dans les matins aux élections européennes avec des invités exceptionnels. Nous sommes en compagnie de l'écrivain Herri De Luca. On s'intéresse donc à l'avenir de l'Europe et plus particulièrement au gouvernement italien.
Il est né d'une coalition inédite entre la la Ligue d'extrême droite et les 5 étoiles anti-système. Nous en avons largement fait écho sur notre antenne. Elle bouscule l'ordre diplomatique jusque-là établi, poussant notamment la France à prendre ses distances d'avec Rome. 8 mois après la formation de ce gouvernement, il a connu hier son premier test lors d'élections régionales. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Rome. Mathilde, quels sont les enseignements de ces élections ?
Alors c'est une victoire écrasante de la droite dans la région des Abruzzes qui votait hier. Les régions votent à tour de rôle en Italie et c'était au tour de cette région centrale collée à celle de Rome. La coalition de droite atteint quasiment 50% des voix. Coalition entre la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Berlusconi et Fratelli d'Italia, l'extrême droite. C'est un raz-de-marée avec un Salvini qui s'est beaucoup engagé dans cette campagne. Un peu trop même puisque hier, jour de vote, il incitait par tweet les électeurs à aller voter pour la Ligue, violant ainsi la loi électorale qui impose le silence le jour du vote en Italie.
Et ces élections confirment donc, Mathilde, les difficultés du mouvement 5 étoiles.
C'est effectivement l'enseignement très significatif pour les prochaines semaines. Les 5 étoiles passent de 40% des voix, c'était en mars dernier, à moins de 20. Le premier parti d'Italie n'est plus le mouvement 5 étoiles, mais la Ligue. La confirmation vient des urnes de la région des Abruzzes. C'était une élection test. Qu'est-ce que ça veut dire à terme? Peut-être que la Ligue pourrait être tentée de changer d'allié de gouvernement, de retourner aux élections et de faire voler en éclats cette coalition inédite.
Alors Mathilde, il y a un autre fait important à noter ce week-end en Italie, c'est le réveil de la rue. 1000 personnes ont défilé à Rome samedi.
Oui, un cortège compact sous les bannières des trois principaux syndicats italiens. Il n'y avait pas eu d'aussi grand rassemblement depuis 4 ans en Italie. Que demandent les syndicats ? Une révision de la politique économique du gouvernement pour favoriser davantage les investissements et l'emploi. Ils doutent des bienfaits des 2 réformes phares adoptées par l'alliance Ligue 5 étoiles, à savoir l'avancement de l'âge de départ à la retraite et le revenu minimum. Cette manifestation aussi confirmerait le début de défiance envers le mouvement 5 étoiles qui veut incarner l'aile sociale de ce gouvernement.
Merci Mathilde. Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome en direct ce matin. Et nous continuerons d'évoquer l'Italie avec l'invité des matins sur France Culture, Eri De Luca, l'écrivain critique sur le gouvernement italien actuel. Nous reviendrons donc sur l'actualité en Italie et plus généralement sur l'Europe à quelques mois des élections. Ce sera dans 10 grosses minutes. Avant cela, un chiffre sur une autre manifestation du week-end. 45 000 personnes ont manifesté hier à Madrid, en Espagne. Elles protestaient contre de possibles discussions entre le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, et les indépendantistes catalans. Demain, notons par ailleurs que s'ouvre le procès de 12 dirigeants indépendantistes. Ils sont accusés de sédition après la tentative d'accession à l'indépendance menée il y a 2 ans, en 2017. Un 5e mandat, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est candidat à la présidentielle d'avril prochain en Algérie, et ce malgré ses problèmes de santé. Au pouvoir depuis 1999, âgé de 81 ans, il a été victime d'un AVC en 2013 et n'apparaît plus que très rarement en public. Pourtant, il est donc candidat et il est soutenu par son parti, le FLN, Front de Libération Nationale, soutenu aussi par une autre coalition, l'Alliance Présidentielle. Kader Abderrahim est chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb. Il y voit là une provocation.
Ça paraît tellement irrationnel et on est plutôt sidéré par une telle provocation, parce que c'en est une. Il n'a même pas pu annoncer lui-même sa candidature compte tenu de son état de santé. Et donc, on comprend pas très bien quelle sera la nature de la campagne électorale qui va s'ouvrir. Et puisqu'on sait tous que d'ores et déjà que le président Bouteflika n'est pas en mesure de faire campagne et qu'il pourra pas s'adresser aux Algériens dont il brigue les suffrages.
Kader Abderrahim, comment peut-elle être reçue cette candidature en Algérie ?
Écoutez, en dehors du sérail, je crois que les Algériens, et je pense pas être démenti par la participation au prochain scrutin présidentiel, je pense que les Algériens ne sont pas très intéressés par ce qui se passe dans la coulisse, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ont compris que ça n'était pas les intérêts de l'Algérie qui étaient défendus, mais les intérêts d'un système politique que l'on veut pérenniser.
Il n'y a aucune autre alternative politique à cette candidature d'Abdelaziz Bouteflika ?
Si, il y en a. Il y a notamment Ali Benflis, un ancien Premier ministre. Il y a des gens de grande valeur en Algérie. C'est pas ça le sujet. La question est de savoir s'ils pourront s'exprimer au cours de cette campagne et si eux-mêmes, d'ailleurs, pourront faire valoir leurs idées, leurs programmes en toute liberté.
Le chercheur Kader Abderrahim interrogé par Mathieu Laurent. Les forces démocratiques syriennes ont lancé l'assaut samedi en Syrie contre le groupe État islamique dans l'est du pays. Elles sont appuyées par la coalition sous commandement américain et parlent d'assaut final. Près de la ligne de front à Baghouz, Étienne Monin nous décrit la situation.
À quelques kilomètres des frappes de l'aviation, dans une grande plaine fouettée par le vent, l'image symbolise la défaite de Daesh et la fin du califat. Dans cette plaine, jour après jour, les proches et les familles des combattants fuient la dernière poche en payant parfois des passeurs pour les derniers kilomètres. On voit des dizaines de femmes en burqa. Elles portent des enfants en bas âge, parfois des nourrissons. Au moment de l'offensive finale, elles étaient principalement irakiennes, mais des Européennes ont aussi pris la fuite. 22 000 personnes à intégrer dans un camp, d'après le commandant du secteur. Le dernier carré de l'État islamique est devenu invivable, d'après les témoignages. La nourriture est difficilement accessible. Des gens dormiraient dehors. Les soldats considèrent que Daesh n'est plus en état de véritablement combattre. L'aviation est pour l'instant en première ligne. Sur la route qui mène à Baghouz, on voit l'ampleur des destructions. Elles sont considérables.
C'était notre envoyé spécial Étienne Monin. La pluie s'en va vers l'est ce lundi pour quitter le territoire français en fin de journée. Le soleil va s'affirmer peu à peu. Comptez 4 degrés ce matin à Lille, 5 à Strasbourg et Lyon, 7 degrés à Paris, 11 degrés à Nice.